VOA Afrique, les infos. À Washington.
Avec vous, Henri Francisque, 13h à Dakar, 14h à N'Djamena. Bienvenue à notre journal. Burundi, les radios BBC et Voix de l'Amérique vont être suspendues pour 6 mois au Burundi à compter de lundi prochain 7 mai 2018. C'est ce qu'a annoncé l'autorité des médias ce vendredi, alors que le pays est en pleine campagne pour le référendum constitutionnel du 17 mai. Dans une déclaration à la presse aujourd'hui à Bujumbura, le président du CNC, le Conseil national de la communication, Karenga Ramadani, a invoqué ce qu'il a appelé des manquements à la loi régissant la presse et à la déontologie concernant les radios en question. Selon lui, la BBC est sanctionnée pour avoir fait fi d'une précédente mise en garde et pour des propos portant même atteinte à la réputation du chef de l'État, tenu par un invité dans l'une de ses émissions. Le CNC reproche à la Voix de l'Amérique d'avoir diffusé des informations très tendancieuses et d'avoir engagé un journaliste recherché par la justice burundaise. Deux stations locales, Isanganiro et la CCIBFM, ont également reçu une mise en garde à propos de ce qui est qualifié de manque de vérification rigoureuse des sources d'informations. En RCA, vive tension à Bangui ce vendredi à l'occasion de la journée ville morte décrétée par la société civile pour protester contre les récentes violences dans la capitale. Des barricades ont été érigées en plusieurs endroits de la ville, dont le quartier musulman du PK5, qui reste isolé des autres secteurs de Bangui. Des habitants en colère ont également bloqué des véhicules de la MINUSCA, la mission onusienne, sur place. Et l'un d'entre eux a été caillassé près du rond-point de l'ONU. La journée ville morte vise en particulier à dénoncer l'incapacité des autorités centrafricaines à mettre fin aux violences dans le pays. Plus de détails avec Freeman Sipila, correspondant de VOA Africa, Bangui.
Cet appel, lancé principalement par le groupe de travail de la société civile GSTC, intervient alors que le pays observe depuis hier un deuil national de 3 jours. Les organisateurs veulent à travers cette mobilisation passer à la vitesse supérieure pour dénoncer la persistance des violences. Paul Cresson Beninga, porte-parole du GSTC.
L'heure est grave, c'est pourquoi nous avons appelé à une ville morte. Au sortir de la journée ville morte, il faut qu'on procède dans la même soirée à un concert de casseroles, toujours dans l'intérêt de manifester notre mécontentement. Notre désaccord par rapport à ce qui se passe dans le pays.
À Bangui, les réactions divergent sur cet appel à l'observation d'une journée ville morte. C'est le cas de l'OFCA, l'Organisation des femmes centrafricaines, qui n'en voit pas d'importance. Annette Wango, sa vice-présidente.
Comment être dans un état de tristesse et se mettre à faire un concert de casserole? Nous sommes des centrafricains et nous sommes des Africains. Par exemple, dans mon village, quand il y a un cas de deuil, c'est le silence. On ne peut pas faire le bruit. C'est pour cette raison qu'au niveau de l'UFCA, nous avons dit que ce n'était pas opportun.
Freeman Sipila, Bangui, VOA Afrique.
Au Tchad voisin, le Premier ministre Albert Pahami Padake et son gouvernement ont démissionné jeudi conformément à la nouvelle constitution. Celle-ci renforce les pouvoirs du président avec la mise en place d'un régime présidentiel intégral, sans Premier ministre ni vice-président. La nouvelle constitution instaurant la 4e République tchadienne, adoptée lundi par le Parlement, devrait être promulguée ce vendredi par le chef de l'État, Idriss Déby Itno. Le Conseil constitutionnel a rejeté hier le recours en annulation déposé mercredi par 26 députés de l'opposition. Au Mozambique, la mort inattendue du chef historique de la guérilla puis de l'opposition, Afonso Dhlakama, a plongé le pays en pleine incertitude politique. Le décès a lieu alors que les négociations de paix avec le gouvernement semblaient proches d'une conclusion. Jean-Roger Bion.
La chaîne de télévision locale TIM a annoncé son décès sans préciser les causes, mais plusieurs sources affirment qu'il a succombé à une crise cardiaque. Afonso Dhlakama a dirigé pendant 39 ans la RENAMO. Son mouvement rebelle a combattu le Frelimo au pouvoir jusqu'à la fin de la guerre civile en 1992 avant de devenir un parti politique d'opposition. Après avoir perdu plusieurs fois aux élections, la RENAMO a repris les armes en 2013 pour contester la mainmise du Frelimo sur la vie politique depuis l'indépendance en 1975. Depuis la reprise des hostilités, Afonso Dhlakama vivait retranché dans les montagnes de Goronkosa, dans le centre du pays. À la fin de 2016, il avait proclamé un cessez-le-feu pour faire avancer des négociations de paix avec le président Philippe Nyusi. Cette trêve est largement respectée, mais aucun accord formel n'a encore été signé entre les deux parties. Des élections générales sont prévues en octobre 2019.
Madagascar, la haute cour constitutionnelle malgache a partiellement donné raison à l'opposition en annulant une partie des nouvelles lois électorales à l'origine des manifestations contre le régime du président Ir Raja Omampian depuis le 21 avril. La plus haute instance judiciaire malgache a jugé non conforme à la constitution plusieurs dispositions de ces textes, notamment sur la révision des listes électorales, la durée des campagnes, l'utilisation des bulletins uniques ou les conditions nécessaires à la candidature à la présidence.
La Voix de l'Amérique en direct de Washington.
Afrique de l'Ouest maintenant, Nigeria, au moins 4 morts et 9 blessés. Tel est le bilan d'une série d'attentats suicides commis par des femmes kamikazes dans la nuit de jeudi à vendredi dans le nord-est du pays, dévasté par l'insurrection du groupe djihadiste Boko Haram depuis près de 10 ans. Selon les services de secours, un total de 4 femmes kamikazes ont ciblé les villages de Mainari Shuwa et Mainari Kanuri, situés à une quinzaine de kilomètres de Maïdougouri, chef-lieu de l'État de Borno, épicentre de la révolte. Et puis au Sénégal, un célèbre imam du pays a affirmé jeudi lors de son procès à Dakar qu'il ignorait que plusieurs milliers de dollars qui lui avaient été remis en 2015 provenaient de membres présumés des organisations djihadistes Boko Haram et État islamique. Il s'est déclaré en faveur d'un islam pacifique. Alion Ndao, 58 ans, est le dernier des 29 prévenus à être interrogé lors de ce procès placé sous haute sécurité qui a débuté le 9 avril. En Guinée, le président Alpha Condé a annoncé hier qu'il va porter plainte à Paris pour dénonciation calomnieuse dans le cadre du dossier Vincent Bolloré. Le milliardaire français est inculpé pour corruption, notamment dans l'attribution de la concession du port de Conakry. Yacouba Ouédraogo.
Je vais porter plainte à Paris pour dénonciation calomnieuse, a lancé sans plus de détails Alpha Condé à l'occasion hier de la Journée mondiale pour la liberté de la presse. Il a reproché aux journalistes guinéens de n'avoir pas joué leur rôle. Vous n'avez jamais protesté quand on raconte des histoires sur votre pays parce que vous continuez à désinformer. C'est à Paris qu'on va s'expliquer parce qu'aucun de vous n'a cherché à savoir la vérité, a lancé M. Condé. Son ministre de la Justice, Cher Sako, avait pourtant assuré que la Guinée allait collaborer avec la France dans cette affaire. Le président Condé, peu après son arrivée au pouvoir en 2010, avait résilié la gestion du terminal du port de Conakry octroyé en 2008 pour 25 ans à Guettman pour la confier au groupe Bolloré. Les magistrats français qui ont inculpé Vincent Bolloré tentent de déterminer si son groupe a utilisé les activités de sa filiale Havas pour obtenir la gestion des ports de Conakry et Lomé. Le groupe Bolloré a démenti ces accusations. Le 26 avril, la Commission nationale d'enquête administrative guinéenne a démenti toute implication d'Alpha Condé dans l'octroi du terminal à conteneurs de Conakry au groupe Bolloré.
En Afrique du Sud, 4 mineurs ont été tués et 6 autres blessés après un séisme qui a touché jeudi la mine d'or de Massakane du groupe sibanier Stillwater dans la banlieue de Johannesburg et provoqué l'effondrement d'une galerie. C'est ce qu'ont annoncé l'entreprise et le syndicat national des mineurs. 3 employés sont encore bloqués au fond du puits, dont 2 n'ont toujours pas été localisés, a précisé Sibanye Stillwater dans un communiqué. Et toujours en Afrique du Sud, plusieurs dizaines de milliers de mineurs victimes de la silicose et de la tuberculose suite à leur travail dans les mines vont être indemnisés en vertu d'un accord historique d'un montant de plus de 5 milliards de rand conclu avec plusieurs géants du secteur minier. Les détails avec Jacques Aristide.
Cette transaction, la première du genre dans le pays, a été conclue au terme de 3 années d'intenses négociations. Les 5 milliards de rand, près de 395 millions de dollars, correspondent aux provisions déjà budgétisées par les groupes miniers African Rainbow Minerals, Anglo-American, Anglo-Gold Ashanti, Harmony Gold, Goldfields et Sibanye Stillwater. La somme pourrait augmenter en fonction du nombre de plaignants éligibles, d'après un avocat qui a participé aux négociations. Plus de 100 000 travailleurs dans les mines d'or d'Afrique du Sud depuis 1965 pourraient être indemnisés. Les veuves des mineurs décédés de silicose ou de tuberculose seront également éligibles à des dédommagements. Surnommé le mal des mineurs, la silicose affecte les poumons de manière irréversible, mais est évitable en portant des équipements de protection. Les mineurs affirment avoir contracté la maladie en étant contraints par leurs employeurs de travailler pendant des années dans des conditions jugées dangereuses.
Merci de votre attention. Plus d'infos sur notre site internet voaafrique.com. Vous pouvez également nous joindre sur notre page Facebook.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.